Certains hommes ont eu une vie particulièrement bien remplie, font des prodiges, deviennent des virtuoses ou des athlètes accomplis. Mais ils disparaissent au même titre que ceux qui n'ont pas laissé la moindre trace de leur passage sur terre. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant d'entendre le sage dire « Vanité des vanités, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire, car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes, ils meurent les uns comme les autres, un même souffle les anime tous, l'homme n'a aucun avantage sur l'animal, car tout passe. » Fin de citation. Alexandre le Grand était le général le plus brillant de tous les temps et un conquérant accompli, mais aussi un vulgaire jouisseur et un idolâtre de bas étage. En l'an 331, il fait un pèlerinage au grand temple d'Amon-Ré, le dieu égyptien du soleil que les Grecs identifiaient à Zeus. À l'instar des pharaons, il voulait que cette divinité le reconnaisse comme son fils. Cette même année, à la tête de 40 000 hommes de pied et de 7 000 cavaliers, il part à la conquête de tout ce que possédait l'Empire perse. Il traverse les fleuves Euphrate et Tigre et arrive dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, où il rencontre à nouveau l'armée de Darius III qui l'anéantit complètement. Darius s'enfuit comme précédemment, c'est désormais une habitude chez lui, mais il sera assassiné par l'un de ses satrapes l'année suivante. Babylone capitule devant l'armée d'Alexandre et Suse, avec ses immenses trésors, est rapidement conquise. Puis en l'an 330, dans un accès de délire éthylique, Alexandre brûle Persépolis, la capitale officielle de la Perse. Cette fois-ci, c'est le point final à l'histoire et à l'existence de cet empire. Afin d'achever sa conquête de l'Empire perse, qui comprenait une partie des Indes, Alexandre lance son armée vers l'est. Il fait un crochet jusqu'au nord du Tadjikistan, puis redescend vers le sud, traverse le fleuve Indus en 326 et envahit l'est de l'Inde. Il veut poursuivre son offensive, mais ses troupes macédoniennes épuisées refusent de continuer. Il descend alors le fleuve Indus et arrive à son delta dans l'océan Indien durant l'été de l'an 325. Il le longe vers l'ouest et passe une bonne année à explorer le golfe Persique et à organiser son empire. Il arrive à Babylone au printemps de l'an 323, mais ayant contracté la malaria, il est soudainement pris de fièvre et suite à une beuverie, il meurt en juin de cette même année. Comme j'ai déjà dit, Alexandre était l'un des plus grands généraux que le monde ait connu, un stratège de génie et un dirigeant qui commandait le respect. Il savait prendre les bonnes décisions et les faire exécuter sur le champ. Mais il est surtout connu pour la manœuvrabilité de son armée qu'il pouvait déplacer en un temps record sur des distances phénoménales. Brave et souvent généreux, il pouvait aussi se montrer cruel et sans pitié pour des raisons politiques. Alexandre était un alcoolique et en pleine crise éthylique, il avait tué son meilleur ami Clitus, ce qu'il regretta amèrement toute sa vie. Comme chef d'État, il avait la folie des grandeurs et rêvait d'unifier l'Est à l'Ouest en un empire universel dans un monde fraternel nouveau et éclairé. Il adopta les coutumes perses, prit des femmes orientales dont la fille aînée du roi perse Darius III et encouragea ses officiers à faire de même. Je continue à lire dans le chapitre 8 de Daniel. Le bélier à deux cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux représente le premier de ses rois. Puis elle s'est brisée, quatre cornes ont poussé à sa place. Celle-ci représente quatre royaumes issus de cette nation qui, cependant, n'auront pas la même puissance. Versets 20 à 22. À l'âge de 30 ans, Alexandre le Grand dominait le monde connu qui allait de l'Europe aux Indes. Il avait accompli bien davantage que les potentats égyptiens, assyriens, babyloniens et médo-perses qui l'avaient précédé, et en seulement 8 ans. Mais la grande corne s'est brisée. Il est mort en pleine force de l'âge à 33 ans. Dans une perspective humaine, on peut se lamenter et dire « Quel dommage, quel gâchis !»« Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. » Peu de temps avant sa disparition, il ordonna aux villes grecques de l'adorer comme Dieu, car il se disait d'origine divine. Mais cet ordre n'eut pas d'écho à cause de sa mort prématurée. Alexandre était non seulement un grand général, mais il savait aussi administrer les territoires conquis. Afin de les unir entre eux, il fonda 70 villes auxquelles il donna le plus souvent le nom d'Alexandrie. Elles étaient bien construites, bien situées, approvisionnées en eau potable et possédaient un très bon réseau routier avant même les fameuses voies romaines. Les vétérans grecs de l'armée d'Alexandre s'y installaient les premiers, mais comme il y faisait bon vivre, elles devinrent rapidement des pôles d'attraction. C'est ainsi que la culture et la langue grecque se répandirent partout dans ce vaste empire. En étendant l'influence grecque, Alexandre avait préparé le terrain pour les royaumes qui furent fondés par ses généraux et pour les futures conquêtes de l'empire romain. Les derniers mots d'Alexandre le Grand furent « Je laisse mon empire au plus fort », une phrase ambiguë qui entraîna un demi-siècle de conflits entre ses quatre généraux puis leurs descendants. Il fallut 22 ans de lutte avant qu'ils se mettent plus ou moins d'accord et se partagent l'empire grec. Ces quatre hommes sont représentés par les quatre vents que Daniel a vus agiter la grande mer et par les quatre cornes qui remplacent la grande qui s'est brisée. Cependant, elles n'auront ni la force, ni la stature, ni l'envergure de la grande corne. Je continue. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. Verset 23. Ces méchants sont le peuple d'Israël infidèle à l'Éternel. Leur persécution est un châtiment de Dieu à cause de leurs fautes répétées envers lui et surtout l'abandon progressif de la loi de Moïse remplacé par des pratiques idolâtres. Le roi dur et expert en intrigue s'appelle Antiochus IV Épiphane et il est beaucoup question de lui dans la vision de Daniel. Il apparaîtra dans les dernières années du pouvoir du bouc, c'est-à-dire de l'Empire grec. Après avoir usurpé le trône de la dynastie des Séleucides, Antiochus prit le pouvoir en 175 avant Jésus-Christ et régna 11 ans. Quelques années après sa mort, en l'an 146 avant Jésus-Christ, Rome fit la conquête de la Grèce et devint la nouvelle puissance du Moyen-Orient. C'est la quatrième bête du rêve de la statue de Nabucodonosor. Les trois précédentes avaient été Babylone, les Mèdes et les Perses, et la Grèce. Je continue le texte. La puissance du roi dur ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Verset 24. La puissance d'Antiochus ne viendra pas que de ses capacités personnelles, mais lui sera donnée par Dieu afin qu'il ait la victoire sur l'Égypte et les Perses auxquels il fera la guerre, et afin qu'il châtie les membres du peuple saint, c'est-à-dire les Israélites, à cause de leurs infidélités. Il sera également revêtu d'une force diabolique, tout comme l'Antéchrist, lorsqu'il se manifestera sur la scène mondiale. L'apôtre Paul écrit de lui « L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Comme Antiochus, l'Antéchrist, aussi appelé la bête, recevra le pouvoir et la domination d'en haut. » Je lis un passage. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartenaient à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Fin de citation. Je continue le texte de Daniel. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Verset 25. Antiochus était rusé comme le diable et pour cause, puisqu'il était sa doublure. Cet homme brutal et sanguinaire était un Hitler avant l'heure. Il s'opposera au prince des princes, c'est-à-dire à Jésus-Christ. En effet, il a pillé le trésor du temple, il a construit sur l'autel des holocaustes juifs un nouveau dédié à Zeus et sur lequel il offrait des cochons en sacrifice, il a incendié ou démoli une partie de Jérusalem et sévèrement persécuté les Israélites. Se prétendant Dieu, il a même fait frapper des pièces de monnaie sur lesquelles était écrit Antiochus Theos Epiphanes, ce qui veut dire « Je suis le Dieu qui s'est manifesté ». Ce tyran cruel et méchant préfigure la grande tribulation et l'antéchrist. Ces monstres sont tous deux appelés bêtes et petites cornes et ont plusieurs caractéristiques communes. Comme Antiochus, mais bien plus que lui, l'antéchrist sera très puissant et subjuguera des peuples. En fait, à un moment donné de son règne, l'économie mondiale sera entièrement sous son contrôle. Je lis un passage. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. En second lieu, l'antéchrist aussi sera très intelligent et accédera au pouvoir par la ruse en trompant le monde. Il sera doté d'un pouvoir et d'une force qui ne viendra pas de lui, mais de Satan. Il sera un adversaire redoutable pour Israël qu'il persécutera et écrasera. Il s'opposera au Seigneur, mais comme Antiochus, sa fin sera soudaine, car leur jugement sera ordonné et exécuté par Dieu lui-même. Daniel écrit qu'Antiochus sera brisé sans aucune intervention humaine, ce qui veut dire qu'il n'est pas mort sur le champ de bataille ou sous les coups d'un assassin. Selon le livre apocryphe des Maccabées, il sombra dans la folie et mourut subitement d'une maladie indéterminée. On peut comparer ces deux bêtes au niveau de leurs faits et gestes, mais non pas de leur stature, car Antiochus est un nain par rapport à l'Antéchrist qui aura un pouvoir comme personne n'a jamais eu. Cette prophétie de Daniel a donc deux applications. La première s'est faite en la personne d'Antiochus IV Épiphane sous la dynastie des Séleucides pendant la domination grecque. La seconde s'accomplira à la fin des temps sous la domination de l'Antéchrist, la petite corne de la quatrième bête et qui est la troisième phase de l'Empire romain. Je continue le texte. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des soirs et des matins est parfaitement vrai. Mais tiens-la secrète, car elle concerne une époque très lointaine. Verset 26. Les holocaustes du soir et du matin ayant été supprimés par Antiochus, ils se sont métamorphosés en quelque sorte en une vision de l'avenir, au centre de laquelle se trouve le peuple élu. L'ange Gabriel confirme la véracité de la révélation que Daniel a reçue et lui dit de la garder pour lui, jusqu'au moment où, sous l'impulsion du Saint-Esprit, il la mettra par écrit. Je finis maintenant le chapitre 8. Là-dessus, moi, Daniel, je fus complètement épuisé et malade pendant plusieurs jours. Après cela, je me relevais et je retournais m'occuper des affaires du roi. Je demeurais frappé de stupeur par cette vision, mais personne ne s'en aperçut. Verset 27. Daniel est tellement affecté, autant physiquement qu'émotionnellement par ce qu'il vient de vivre, qu'il en est malade. En fait, il n'arrive pas vraiment à s'en remettre. Cependant, il peut quand même vaquer à ses occupations et assumer ses responsabilités sans que son entourage ne soupçonne quoi que ce soit d'anormal. Cette vision montre comment Dieu va raccorder le temps des nations à l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, pour compliquer la donne, il faut ajouter l'Église à cette équation. Mais le Nouveau Testament nous explique comment ces trois classes de l'humanité s'articulent. À la fin des temps, une fois que l'Église aura été enlevée de ce monde, Dieu résumera son programme à la fois avec Israël et les nations païennes. Nous arrivons maintenant à un remarquable chapitre, non seulement du livre de Daniel, mais de tous les textes sacrés. Il s'agit à la fois d'une prière et d'une prophétie. Si on devait choisir les 10 passages les plus significatifs sur la prière, le chapitre 9 de Daniel en ferait partie. Et si on voulait choisir les 10 textes prophétiques les plus importants, ce chapitre serait sur la liste. Cette prière de Daniel sort de son cœur et va droit au cœur du lecteur. Sa profondeur et sa puissance ne devraient pas nous étonner, car elles sont le produit d'une vie de dévotion quotidienne à l'Éternel. Je rappelle deux événements de la vie de Daniel. Quand Nabuchodonosor a fait son fameux rêve de la statue composée de différents métaux, il fut très troublé et convoqua en toute hâte tous les mages du royaume pour leur demander deux choses. D'une part, le contenu du rêve afin de mettre à l'épreuve la bonne foi de ces mages, et d'autre part, sa signification. Comme personne de cette nombreuse compagnie n'était capable de répondre aux désirs du roi, il a vu rouge et décida de tous les décapiter. Ce comportement de la part d'un potentat oriental était relativement banal et serait passé inaperçu si Daniel et ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, n'avaient pas été concernés. En effet, comme ces quatre jeunes hommes avaient été nommés au poste de sage, ils faisaient automatiquement partie de la charrette des condamnés. Alors, Daniel, qui n'avait pas la moindre idée du rêve du roi, a convoqué ses amis pour qu'ensemble, ils intercèdent l'Éternel et que lui soient révélées les réponses que le roi exigeait. Ensuite, au tout début du règne de Darius, il y a eu l'incident de la fosse aux lions. Daniel faisait partie d'un triumvirat qui dirigeait l'empire babylonien, mais comme le roi avait décidé de le nommer grand chef, les deux autres étaient jaloux, fous de rage, de voir un étranger les supplanter. Ils ont alors monté un traquenard astucieux pour coincer Daniel à cause de sa vie de prière. Mais quand ce dernier a su qu'il serait exécuté, si pendant un mois il continuait à prier l'Éternel, il a fait comme si rien n'était sans changer ses habitudes. Trois fois par jour, il allait dans sa chambre haute et priait l'Éternel, car à ses yeux, sa vie de prière avait plus de valeur que sa vie. Dieu l'a alors miraculeusement tiré d'affaire, mais le point important est que Daniel était d'une dévotion extraordinaire et sa relation personnelle avec son Dieu avait priorité sur tout le reste. Tout ça pour montrer que la prière extraordinaire qui est contenue dans le chapitre 9 du livre n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une vie consacrée à l'Éternel. On voit aussi qu'avant de se lancer dans une intercession intense, il s'y prépare mentalement et physiquement, car pour lui, c'est une activité qui lui coûte, qui exige un gros effort et de l'endurance, parce qu'il insiste et bataille jusqu'à ce qu'il obtienne de Dieu ce qu'il lui demande. Lorsque l'ange de l'Éternel a combattu Jacob, à un moment donné, il lui a dit « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » C'est comme ça que Daniel priait, avec persévérance. Il n'essayait pas de composer de la belle prose et ne faisait pas de vaines répétitions style moulin à prière. D'ailleurs, à ce sujet, Jésus a enseigné « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. » Daniel était candide et direct. Il ne cherchait pas à paraître et ses prières étaient entendues, car il recevait une réponse. L'apôtre Jean écrit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Fin de citation. Le physicien Isaac Newton était croyant. Il disait qu'avec un télescope, il pouvait apercevoir un grand nombre d'étoiles, mais quand il rangeait son instrument et se mettait à genoux, il pouvait pénétrer le troisième ciel jusqu'au trône de Dieu.